France Inter. France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
C'est notre bien le plus précieux sur Terre. Vous en avez pris au déjeuner et peut-être une ou deux fois dans l'après-midi. Nature, sans sucre, plate ou pétillante, au verre ou au goulot, à petite gorgée ou cul sec. On se lave avec, on cuisine avec. Bref, on s'en met partout sans même y penser. Et pourtant, l'eau, indispensable à notre survie, semble avoir un drôle de goût quand on regarde l'actualité. Des polluants éternels détectés dans le robinet, des microplastiques dans les bouteilles, même celles en verre, des contaminations de certaines eaux minérales naturelles. Avec tout cela, y a-t-il un risque d'affaiblir la confiance? Question existentielle quand on sait que notre propre corps est constitué d'eau à 70%. Est-ce que les règles sont les mêmes partout, alors qu'une partie des Français sont livrés par les géants Veolia, Suez ou Sor, et l'autre partie par des régies publiques plus ou moins grandes? Peut-on boire les yeux fermés, ou sommes-nous à deux doigts d'une vague d'inquiétude, rationnelle ou non, sur l'innocuité de ce qu'on avale? Ce soir, on ne veut pas faire peur, on veut juste comprendre. Remonter dans les tuyaux, de la source au lavabo, qui contrôle, comment les normes sont mises à jour et appliquées, et au passage, est-ce que l'eau risque de coûter de plus en plus cher pour en préserver la pureté? Voilà encore une question dont la réponse ne coule pas de source.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter, on vous écoute.
Oui, mais j'étais tout simplement élève dans les lycées agricoles dans les années 70, et j'avais déjà des enseignants rares qui s'inquiétaient de la descente des pesticides dans les sols, et comme aussi des descentes d'azote. On était à cette époque-là à 90 unités à l'hectare. Ça a bien monté ensuite. Et puis j'ai oublié de préciser tout à l'heure que, étant devenu moi-même enseignant agricole, j'ai été formé donc à Toulouse, où là, il y avait un enseignant qui, dès les années 84, nous avait mis en alerte vis-à-vis du téflon, qui est un PFAT. Alors je suis extrêmement surpris, c'est de l'humour, d'entendre seulement maintenant, c'est-à-dire plus de 40 ans après, que ces problématiques poseraient problème. Mmh. On le savait, on pouvait s'en douter depuis très, très longtemps.
Dites-nous dans quelle région vous avez grandi, Alain ?
Alors moi, j'ai grandi en Champagne. Et donc, ensuite, je vous dis, donc, j'étais à Toulouse. Et c'est peu de dire que ces enseignants qui nous alertaient étaient très mal vus de l'administration. Il y en a quelques-uns qui étaient traités de rigolos comme on traitait à l'époque les écologistes. Maintenant, il y a des très gros progrès. On traite les écologistes d'éco-terroristes. Hein, vous voyez un petit peu l'évolution de l'état d'esprit vis-à-vis de ces problèmes qui sont, je le redis, posés depuis et connus depuis très, très longtemps. On y réagit seulement maintenant avec un retard qui sera extrêmement difficile à rattraper puisqu'en fait, on a 40 ans de pesticides à descendre avant que la politique de réduction, si elle est mise en œuvre, ne devienne vraiment efficace. Et bien sûr, c'est les utilisateurs qui vont payer le nettoyage de l'eau, oui. qui est absolument anormal.
Merci beaucoup Alain d'avoir témoigné sur France Inter et d'avoir été le premier à nous appeler. Et pardon pour la qualité de la ligne téléphonique qui était peut-être elle aussi un tout petit peu polluée. Pour vous répondre Alain, nous sommes ce soir avec Nathalie Davoine. Bonsoir. Vous êtes directrice du Centre d'information sur l'eau. Et nous sommes aussi avec Jérôme Labanowski, qui est bio-géochimiste chargé de recherche au CNRS. Et je remercie ici les équipes d'ici Poitou qui vous accueillent dans leur studio. Alors, on a ce sujet que met Alain sur la table, le fait que les PFAS, ça n'est pas si récent que ça. Et on en parlait visiblement dès les années 80, nous disait même les années 70, nous disait Alain, notre premier auditeur. Vous confirmez, Jérôme Labanowski?
Oui, effectivement, oui, même il y a même des études aux États-Unis où déjà ils s'alarmaient de la présence des PFAS dans le sang des enfants. Alors pas forcément en lien avec l'eau, mais avec tout ce qui était sachet pop-corn. Les PFAS, vous savez, c'est ce qu'il y a dans les poêles anti-adhésives, et pour pas que le pop-corn micro-ondes y colle au sachet micro-ondes, en fait, les sachets aux États-Unis contiennent énormément de ces composés. Et donc dès les années 2000, il y avait des études qui montraient qu'il y avait du sang de certains composés, décomposés dans le sang des enfants, quoi. Donc ça fait quelque temps déjà que c'est entre guillemets suspecté.
Mais parce qu'on a l'impression que ce sujet, notamment, je parle vraiment spécifiquement des PFAS, il a émergé dans le débat public, grand public, ou plutôt dans les médias, comme nous ici France Inter, relativement récemment. C'est-à-dire que le terme PFAS, en tout cas, on ne le connaissait pas, peut-être il y a encore 4-5 ans. Est-ce que vous le connaissiez, vous, les connaisseurs, les scientifiques qui travaillent là-dessus, et pourquoi est-ce qu'il a émergé si tard dans le débat grand public?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. Oui, on le connaissait. Parce que bah effectivement on a parlé du téflon et puis les revêtements des poils et puis vous savez tous les tissus déperlants par exemple sur les habits, vous savez pour que l'eau ruisselle quoi. Oui. Donc effectivement nous on connaissait ça. Maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous un peu épatés de voir que ça a pris très rapidement dans l'opinion et les gens se sont appropriés le sujet, ont demandé des comptes et demandent toujours des comptes et du coup ça fait, j'allais dire, pousser pour la réglementation et d'ailleurs du coup une réglementation se met en place à l'heure actuelle en France et en Europe. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est monté très récemment, ouais.
Effectivement, et quand on parle des PFAS, je vais faire le terme savant, les polyfluoroalkylés, c'est bien ça, Jérôme Labanowski, ça vous fait rire.
Oui, pardon, excusez-moi,
ouais,
oui,
j'avais le droit.
Mais je pense que les gens connaissent bien le nom PFAS, il est rentré quasiment, et polluant éternel, je pense qu'il est quasiment rentré
parce
dans le langage courant.
Il y a différents types de PFAS, il y a les PFOS, c'est le sulfonoate de perfluorooctane, et le PFOA, là, je vais éviter le mot avec trop de lettres qui compose.
C'est ça, en fait, c'est une famille extrêmement grande. Il y a plusieurs milliers de substances, en fait, qu'on peut appeler derrière le mot PFAS, mais vraiment plusieurs milliers. On en suit, j'allais dire, on en une 150, à peine 200 en fait, on est capable de mesurer en analyse. Mais donc, c'est une très 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 vaste famille. Ouais.
Et vous avez raison, on en parlait avec le sourire, mais le sujet est particulièrement sérieux, voire grave, puisque vous le disiez, on les trouve dans les textiles, dans les emballages alimentaires, dans les mousses anti-incendie, dans les gaz réfrigérants, dans les anti-adhésifs, dans les cosmétiques aussi, dans des dispositifs médicaux. On se demande en fait où s'arrête la liste, quasiment.
Alors je vais pas dire c'est sans fin, mais il y a énormément de choses. Effectivement, dans les cosmétiques, tout ce qui est matériel waterproof, en fait, leur propriété est tellement intéressante et tellement, j'allais dire, facilitatrice de plein d'usages de notre quotidien qu'ils ont été largement utilisés, largement répandus tout autour de nous, en fait, sans qu'on s'en rende compte.
Nathalie Davoine avec nous, directrice du Centre d'information sur l'eau. Est-ce que au Centre d'information sur l'eau aussi, on a en tête ce sujet des PFAS depuis, peut-être pas les années 70, comme nous le disait notre premier auditeur Alain, mais depuis bien plus que 4-5 ans?
Oui, alors en fait, il y a une norme depuis 2023 et on a une directive qui se renforce sur le sujet, comme l'a dit
Jérôme Labanowski
avant moi. Exactement. Avant tout, ce que j'aimerais préciser, c'est que l'eau qui arrive au robinet en France, eh bien, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'elle est encadrée, cette eau, par des normes très strictes. Et ces normes, évidemment, elles découlent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc des experts du monde entier, pour être fixées ensuite par l'Union européenne et appliquées en droit français. Donc, évidemment, que la qualité de l'eau, dans sa globalité, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de PFAS, certes, que l'on trouve un peu partout, depuis un certain temps, mais la qualité de l'eau, en fait, elle concerne les micropolluants dans leur globalité. Et ces normes, pour en revenir aux normes, eh bien, elles portent sur des paramètres chimiques, microbiologiques, en fait, pour faire simple, hein, sur les microbes comme les virus, les bactéries, et elles sont établies en fonction d'un risque immédiat ou sur le long terme. En tout cas, l'eau du robinet, pour que l'eau du robinet puisse être bu sur toute une vie. Et un autre point qu'il est intéressant de souligner, c'est que ces normes, eh bien, elles sont fixées pour protéger les populations les plus vulnérables, hein, les femmes enceintes, les nourrissons.
C'est-à-dire qu'on est sur vraiment les seuils
les
plus hauts possibles pour que ça convienne à tout le monde et à commencer par les personnes les plus fragiles.
Exactement, les personnes les plus fragiles, donc immunodéprimées, femmes enceintes ou encore nourrissons. Donc, on est quand même sur 18 millions d'analyses par an pour le contrôle officiel qui est réalisé par les agences régionales de santé, ce qu'on appelle les ARS. Et il faut savoir que l'eau du robinet, eh bien, elle est contrôlée à la fois sur le point de captage, c'est-à-dire l'endroit où on la puise, où elle est pompée. Elle est contrôlée en usine de traitement. Ensuite, elle est acheminée en dehors et en sortie d'usine et à la sortie du château d'eau ou du réservoir. Donc c'est.
Et qui fait ces contrôles ? Est-ce que c'est à chaque fois le gestionnaire ? Donc vous, au Centre d'information sur l'eau, vous travaillez directement avec les Veolia, les Suez, les SOR et tous les syndicats et régies d'eau. Ou est-ce que c'est fait par des contrôleurs publics, justement, les agences régionales de santé ou autres ?
Ces contrôles, ces analyses sont faites par les agences régionales de santé. Il existe également ce qu'on appelle l'autocontrôle, qui sont également faits par les services d'eau. Et là, je parlais les 18 millions d'analyses auxquelles je faisais référence. Eh bien, il s'agit des 18 millions d'analyses réalisées par ces agences régionales de santé.
Vous restez avec nous, Nathalie Davoine, évidemment, directrice du Centre d'information sur l'eau. On retourne au standard où Alain nous attend, un autre Alain. Bienvenue et bonsoir, Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, eh ben, il y a quelques temps sur France Inter, il y a eu une émission à propos des eaux minérales et eaux minérales naturelles. Et là, il y avait une personne, comme certainement votre invité là, qui représentait effectivement l'eau qui était distribuée dans les robinets, donc sur le réseau. Et là, il s'avérait que, comme je viens encore de l'entendre, que l'eau est vraiment excellente, quoi. Je veux dire, elle est contrôlée partout.
L'eau du robinet.
Alors, ouais, l'eau du robinet. Simplement, là, moi, ce que je me pose comme question, c'est que sur ma commune, là, du Gard, dans les Cévennes, là, il y a des chantiers qui sont déclenchés. Donc, c'est une commune rurale de montagne pour sortir des canalisations relativement récentes, parce que justement, il avait été détecté dedans des polluants éternels dus à la qualité du plastique du réseau. Oui. Ça, c'est ce qui m'a été dit par les services municipaux. Alors, je voudrais savoir s'il y a des... Maintenant, j'ai modifié donc ma question, puisqu'on n'en avait pas parlé la première fois quand j'ai été retenu pour la question. Donc, est-ce qu'il y a des PFAS dans mon robinet, puisque... Et puis pourquoi, à ce moment-là, en ce moment, ils sont en train de déterrer pour changer les réseaux, quoi. Voilà.
Merci Alain pour votre question, que je retourne directement à Nathalie Davoine, directrice du Centre d'information sur l'eau. Est-ce qu'on a eu un problème avec les réseaux de canalisation, les types de matériaux utilisés plus récemment, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être dans les années 90, 2000, 2010, qui, eux, contenaient des PFAS, alors que les réseaux antérieurs n'en contiendraient pas?
Alors, je pense qu'il s'agit plus, si on parle de réseaux de canalisation, il s'agit plus de CVM hein, qui émane donc de.
Alors, le CVM.
Alors, c'est le chlorure...
De vinyle monomère, je tape en même temps sur Internet.
De vinyle monomère, là, moi, je ne suis pas... scientifique, hein, je ne suis pas...
Oui, vous représentez effectivement plutôt à la fois ce monde industriel et le monde des régies autour de l'eau.
Ce que je représente, c'est surtout, enfin, le Centre d'information sur l'eau. Je pense qu'il est peut-être important de le rappeler. En fait, c'est un centre de ressources dédié au grand public.
Oui.
Nous nous adressons effectivement au grand public pour simplifier cette information autour de l'eau du robinet. Et on le voit, hein, une information complexe qui nécessite de la pédagogie et également de la simplification pour savoir exactement ce que l'on boit. Et ce que je vois, c'est ce qui reflète de nos enquêtes, puisque nous menons des enquêtes annuellement, eh bien, c'est que la 80% des Français nous disent faire confiance dans l'eau du robinet.
Et sur la question de ces canalisations, est-ce qu'il y a pu y avoir un sujet? Est-ce qu'aujourd'hui on dépose des canalisations relativement récentes qui auraient pu contenir soit des PFAS, soit ce CVM dont vous parliez, chlorure de vinyle monomère?
Écoutez, ça, alors, l'eau étant un produit local, il est possible, si on a un problème de canalisation, la collectivité peut décider effectivement de changer ou pas ces canalisations. On parle là de canalisations qui généralement ont été posées avant les années 80 et qui sont en PVC et qui peuvent relarguer du CVM. Je pense que c'est à ça que faisait allusion
Alors, oui. Alors, vous disiez, je ne suis pas scientifique, et vous avez raison, chacun a sa casquette ici dans l'émission. C'est Jérôme Labanowski qui est avec nous, qui est biogéochimiste. Monsieur le scientifique, monsieur le biogéochimiste, qu'en est-il de ces risques de polluants? Alors, quel que soit le petit sigle qu'on va leur donner, on va essayer d'éviter de trop jargonner ce soir, mais est-ce qu'il y a parfois, dans des canalisations trop récentes, un sujet de pollution, peut-être d'effritement, d'étiolement, qui va polluer, même à dose infime, l'eau du robinet?
Ben, disons que ça peut être vrai pour quel que soit le type et l'âge des canalisations. Des vieilles canalisations peuvent relarguer des matériaux, on peut l'imaginer avec le temps, avec la corrosion, avec, j'allais dire, la fragilisation. Mais aussi dans certains matériaux récents, comme ça a été souligné, effectivement, en PVC, il y a eu toute une génération de PVC qui contenait effectivement, donc le PVC c'est du polychlorure de vinyle, et du coup une partie donc de ces composants, donc le chlorure de vinyle monomère qui est un élément de composition du PVC, peut passer dans l'eau, en fait il peut solubiliser, et effectivement dans certains réseaux qui ont été refaits il y a quelques dizaines d'années, on a pu mesurer des quantités de ce composé qui est potentiellement toxique pour la santé, et les gens ont peut-être vu ou entendu autour d'eux que dans certains moments on faisait ce qu'on appelle des purges de réseau, c'est-à-dire qu'on va vider l'eau pour un temps de séjour court, puisque pour que les concentrations de ce composé augmentent et soient assez importantes dans l'eau, bah, il faut que l'eau reste un certain temps dans la canalisation. Donc il y a souvent des communes qui ont procédé à des purges en attendant de pouvoir renouveler, ces canalisations-là. Sachant que renouveler de la canalisation, c'est très 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 cher, hein, de refaire du réseau. Alors j'ai jamais eu vraiment les coûts, parce que comme vous dites, on est plutôt du côté, j'allais dire, des gens qui exploitent et des communautés. Mais effectivement, on considère qu'on est à pratiquement plus de 1000 euros le mètre linéaire pour refaire du réseau et de la canalisation.
Oui,
donc on peut imaginer que ça prend du temps et ça va très 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 vite sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Ouais.
Jérôme Labanowski avec nous dans le téléphone sonne. Nicolas Garnier est également avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de l'association Amorce qui accompagne les élus locaux dans la gestion des déchets, de l'énergie, mais aussi de l'eau. Alors cette question des canalisations, du renouvellement, et puis on va élargir puisqu'il y a de nouvelles normes qui s'appliquent à partir du 1er janvier, on en parlait tout à l'heure dans le 13h de France Inter, avec un risque d'augmentation des factures pour les communes, pour les consommateurs ou contribuables évidemment en bout de chaîne. Comment est-ce que vous regardez ce sujet? On est devant un immense chantier de renouvellement, de canalisation française dans les années qui viennent?
On est surtout devant un immense chantier de lutte contre les pollutions, puisqu'en fait, effectivement, sur les 33 000 captages d'eau qui alimentent les Français, on sait qu'il y en a à peu près 5 à 8 000 sur lesquels il y a des traces plus ou moins importantes de pollution. On pense en particulier aux métabolites de pesticides, aux PFAS, voire aux métaux lourds. Alors à ce stade, c'est très rarement problématique. Hein. Dans de très rares cas, on dépasse des valeurs maximum qui font qu'on est obligé de fermer le captage. Ça arrive quand même, il faut savoir. Il y a des captages qui ont fermé cette année parce qu'on avait dépassé ces valeurs. Mais par contre, ce qui est très préoccupant, c'est que le nombre de points de captage dits sensibles ou prioritaires, ça dépend des définitions, ne descend pas, voire augmente, parce qu'on voit apparaître finalement des nouvelles pollutions comme les PFAS, qui est le nouvel objet qu'on va devoir regarder de très près à partir du 1er janvier. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire soit on essaie de trouver des manières de faire une agriculture autrement ou de faire fonctionner un certain nombre d'industriels autrement, puisque c'est eux les principales sources de ces pollutions. Soit on traite dans ces points de captage, c'est 5 à 8 000 et ça coûte très cher. Amorce a fait une évaluation qui montre que ça, il y en a au moins pour entre 1,5 et 2 milliards d'euros rien que pour traiter, auquel il faudrait rajouter probablement 1 milliard pour accompagner le monde agricole et 1 milliard également pour traiter dans les stations d'épuration, parce que dans les stations d'épuration, il y a aussi des pollutions et donc il va falloir les traiter. Ça veut dire que potentiellement, il y en a pour 3 à 4 milliards d'euros, s'il n'y a pas la mise en place, j'allais dire, d'un vrai principe pollueur-payeur ou des interdictions, c'est une augmentation potentielle de la facture d'eau des Français, comprise entre 20, 30 et 40%. Donc,
Nicolas Garnier, quand vous dites pollueur-payeur,
on paye très cher.
Vous pensez à quels pollueurs? Ce sont les industriels, ce sont les agriculteurs, ce sont les Français de manière générale, les consommateurs? Qui est le pollueur qu'on voudrait faire payer?
Ouais, la question est bonne, parce que le but, c'est pas non plus de saigner nos agriculteurs qui ont aujourd'hui des vraies difficultés, mais derrière ce monde agricole, il y a quand même des industries, des multinationales de la chimie qui, elles, gagnent grassement leur vie. On va pas les citer, mais vous les connaissez toutes, qui aujourd'hui ne contribuent pas ou très peu à l'accompagnement du monde agricole ou au traitement de l'eau. On pense aussi également au traitement des PFAS qui concerne principalement de plastique, hein, l'industrie du plastique, et je vais les citer parce que c'est un peu un sujet d'actualité, mais là l'ultra fast fashion nous fait acheter des vêtements avec énormément de PFAS, et les PFAS on va les retrouver ensuite à la sortie de nos machines à laver,
les emballages évidemment aussi.
Voilà, il y a des métaux lourds, donc les métaux lourds c'est plutôt des industriels, mais il est temps que ce soit eux qui payent quelque part, soit le prix d'un changement de molécule, parce qu'on peut aussi imaginer des changements de molécules, des changements de pratiques, en particulier dans le monde agricole et de l'agriculture biologique, soit qu'ils payent le prix de ce traitement, que ce soit pas l'usager de l'eau qui est pas pour grand chose qui paye cette facture de la pollution, voire qu'il se retrouve un jour sans eau parce qu'on aura fermé le captage, et que ce soit plutôt effectivement ces multinationales de la chimie principalement qui contribuent presque pas, voire pas du tout. Il y a des, en particulier sur les PFAS, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune contribution. Les enjeux sont énormes et on a l'impression qu'on va dans le mur, puisque ça fait une quinzaine d'années qu'on appelle effectivement à une vraie stratégie nationale de résorption des captages pollués ou partiellement pollués, et que malheureusement, ça ne bouge pas. Parce qu'on a l'impression que c'est le monde agricole qui va trinquer, alors que derrière le monde agricole, oui, il y a surtout l'industrie de la chimie.
Nicolas Gagné, vous restez avec nous. Je voudrais redonner la parole à Nathalie Davoine, qui est directrice du Centre d'information sur l'eau. Nathalie Davoine, comment vous voyez cette espèce de Big Bang qui arrive au 1er janvier, où il faudra, donc, une nouvelle réglementation, contrôler 20 PFAS. Et je crois que les seuils seront extrêmement stricts, hein, puisque ça ne devra pas dépasser 0,1 microgramme par litre. Si je dois traduire, mais ça reste encore un peu abstrait, ça fait un 10 000 000e de gramme de PFAS par litre. Ça, c'est le seuil maximal. Est-ce que ça va faire monter les prix, Nathalie Davoine? Et est-ce que ce prix, c'est le prix de la pureté de l'eau qu'on va boire?
Écoutez, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que les 82% des Français nous disent, en tout cas dans nos enquêtes, qu'ils s'attendent à ce que l'eau soit plus chère. L'eau, c'est un produit local, un produit local, et le service de l'eau est un service local qui va utiliser des ressources en eau qui sont propres à chaque territoire. Alors soit 60%, on sait que 60% par exemple de l'eau épuisée dans les nappes phréatiques, tandis que 40% et de l'eau qui arrive dans nos robinets est plutôt sur des ressources superficielles comme les nappes, les lacs, les rivières. Eh bien, en fonction de ces spécificités, ils vont aider, et de la pollution de ces ressources, eh bien, il va falloir mettre en place des traitements qui seront plus ou moins poussés en fonction de ces réalité locale et des décisions qui seront propres là à chaque collectivité. Une chose est certaine, c'est que les trois quarts des Français nous disent, pareil dans nos enquêtes, ils pensent que cette pollution des ressources, elle aura un impact non seulement sur la qualité de l'eau qu'ils boivent, mais cette pollution des ressources, elle aura également un impact sur le prix de ce service de l'eau. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, parce que quand même il y en a une, c'est que traiter on sait faire, mais comme le disait tout à l'heure Nicolas Garnier, cela a un coût et les collectivités vont se retrouver face effectivement vont devoir faire face, des collectivités, les services d'eau, à des réalités, des réalités qui sont, ne l'oublions pas, amplifiées par le dérèglement climatique.
Effectivement. Effectivement, Nathalie Davoine. Et avant de retourner au standard, je redonne la parole à Nicolas Garnier. On voit que dès qu'on parle prix, c'est évidemment très sensible. Ça va aussi être très politique ce qui va se décider, puisque les hausses, elles seront nécessaires de prix pour favoriser cette purification, cette sécurité qu'on attend évidemment de l'eau du robinet. Mais à chaque fois, l'arbitrage politique, avec le paysage qu'on connaît politiquement aujourd'hui au niveau national, avec les municipales qui arrivent, c'est dans 3 mois, avec tout ce contexte-là, ne seront pas faciles à prendre.
Oui, effectivement, mais je crois qu'il faut avoir une parole d'espoir. En fait, on sait comment éviter ces pollutions aquatiques, mais il faut accompagner le monde agricole, et ça coûte de l'argent. Donc il faut savoir si on a la volonté politique de faire évoluer l'agriculture française de manière à la fois à ce qu'elle soit moins impactante pour les nappes phréatiques, mais en même temps qu'elle puisse survivre, subvenir à leurs besoins. Et nous avons des exemples aujourd'hui en France d'un monde agricole qui, en partenariat avec les collectivités locales, avec l'État, et ont été capables de faire des évolutions de pratiques agricoles. Donc ça existe. Ensuite, il faut que les règles soient claires. Aujourd'hui, les règles sont pas claires ni pour les collectivités, ni pour le monde agricole, ni pour le monde industriel. À partir de quelle valeur faut-il déclencher des plans d'action volontaires? À partir de quelle valeur le préfet doit créer de la contrainte? À partir de quelle valeur il faut fermer le captage? Et surtout, qui va accompagner financièrement tout ça? Juste pour finir également par un message positif, il faut quand même savoir que l'eau du robinet et l'eau, effectivement, comme disaient les interlocuteurs, interlocuteurs précédents, la mieux contrôlée, celle de la meilleure qualité. Il ne faut pas croire que l'eau en bouteille est de meilleure qualité. Vous avez même vu que dans le passé, il y a même eu quelques dérapages sur le sujet. Donc, il faut continuer
à
boire l'eau du robinet.
On a beaucoup parlé sur France Inter, effectivement.
Voilà, les Français sont prêts à payer l'eau un peu plus cher parce qu'il y en a moins. Mais je ne crois pas que les Français seront d'accord pour payer l'eau plus cher parce que d'autres la polluent et gagnent de l'argent là-dessus.
Et on revient à l'affaire des pollueurs-payeurs dont vous nous parliez, le monde industriel, effectivement.
Pollueurs-payeurs plutôt que usagers de l'eau et foyers français payeurs, ça serait plus juste. Et c'est ça une politique environnementale. C'est celle qui met le signal prix sur le bon acteur. Et le bon acteur aujourd'hui, c'est celui qui met sur le marché ses produits polluants.
Nicolas Garnier, merci beaucoup, délégué général de l'association Amorce. On va retourner au standard où Cécile nous attend depuis presque 20 minutes. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Et vous avez une question très concrète.
Oui, moi j'avais une question concernant l'incitation à l'installation de citernes de récupération d'eau de pluie. J'ai rénové une maison il y a une vingtaine d'années et on avait installé dès le départ une citerne enterrée de 4 000 litres avec laquelle on alimente les chasses d'eau de la maison. Et donc voilà, je me demandais pourquoi et je me rends compte que même dans notre région, c'est une installation qui est très très peu courante, quoi. Ça se fait pas beaucoup.
Bonne idée, effectivement, idée très simple. Merci beaucoup Cécile. Je me tourne vers notre biogéochimiste Jérôme Labanowski. Est-ce qu'on peut, à titre individuel, pour sa propre consommation, avoir une petite citerne d'eau de pluie? Notamment là, l'exemple des chasses d'eau, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'eau potable dans ces chasses d'eau.
Oui, effectivement, oui. Par rapport à la chasse d'eau, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'eau potable. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, faut s'assurer que récupérer de l'eau de pluie, ça va avoir que cet usage-là et que ça va pas être un usage qui va servir pour les douches ou, j'allais dire, pour l'eau d'alimentation.
Et ça, on a le droit de le faire.
Oui, on a le droit de le faire par rapport à l'eau des toilettes. Après, il faut aussi avoir en tête qu'il faut bien garder la mémoire de ce double réseau, parce que quelque part, c'est un double réseau que l'on met dans sa maison ou dans son habitation. Et le jour où la maison se vend, il faut aussi qu'il y ait cette mémoire qui perdure pour que les gens sachent quel type d'eau ils ont, par exemple, pour leurs toilettes et quel type d'eau ils ont pour l'eau du robinet conventionnel. Donc ça peut se faire. Après, c'est comme tout. Il y a des régions qui sont mieux pourvues que d'autres par rapport à l'eau de pluie. Et comme ça a été dit par l'auditrice, il faut aussi du stockage, puisque un intérêt, c'est stocker de l'eau quand on la reçoit pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Et c'est pas forcément exactement au même moment. Donc ça peut s'appliquer à plein d'endroits. Ça peut pas forcément s'appliquer partout avec la même, j'allais dire, efficience et puis utilité. Mais effectivement, ça reste des solutions qui sont à l'heure actuelle, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, donc j'allais dire de plus en plus plébiscité. Après, il faut aussi admettre que il faut quand même surveiller la citerne, il faut éviter qu'il y ait des contaminations bactériennes qui se développent, parce que sinon, même si ça reste des toilettes, on fait quand même rentrer à l'intérieur de son habitation potentiellement des germes, des virus. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir sereinement la responsabilité de nettoyer régulièrement ce système-là. Enfin voilà, il faut y faire attention. Contrairement à de l'eau collective déjà traitée, désinfectée, désinfectante qui arrive à votre habitation. Quoi.
Allez-y Nathalie Davoine, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais simplement réagir en rappelant que l'eau de pluie n'est pas propre à la consommation.
Et qu'elle, on ne peut pas la boire.
Voilà, il ne faut pas la boire parce qu'elle capte en fait cette eau de pluie. Et certes, elle tombe du ciel, mais elle capte avec des polluants atmosphériques. Par exemple, en tombant, elle peut se charger de particules fines, d'hydrocarbures, de métaux lourds. Et puis autre chose, l'eau de pluie, eh bien, elle ruisselle sur nos toits ou même dans les récupérateurs. Donc, elle peut également se charger en bactéries, en virus, en pesticides ou même en excréments d'animaux. Donc, vraiment le
là,
point
c'est un message de prudence, effectivement.
Oui, c'est d'avoir vraiment une séparation, une étanchéité qui est totale, et j'insiste sur le total, avec le réseau public, parce que de ne pas devenir des apprentis sorciers en bricolant un système chez soi, parce que même si ça fonctionne, si pour une raison quelconque, il n'y a pas cette étanchéité totale, eh bien, on risque même de polluer le réseau public. Donc, effectivement, on peut la stocker pour arroser son jardin, mais la réglementation, elle reste quand même très stricte sur l'eau, l'eau à la maison.
Alors, j'ai une question pour vous, Jérôme Labanowski, celle assez douloureuse, assez préoccupée de Margot, qui nous écrit par le WhatsApp sur France Inter. Je peux vous dire qu'en tant que maman allaitante qui a dû arrêter l'allaitement, choisir choisir l'eau du robinet ou l'eau en bouteille a été très compliqué. J'ai souvent eu envie de pleurer en me demandant quel poison choisir. Jérôme Lamanowski, on a déjà pas mal dit depuis le début de cette émission que l'eau du robinet était propre à la consommation. Là, on a cette maman qui reste inquiète malgré ses messages. Est-ce que vous pouvez la rassurer ?
Je pense que effectivement, comme ça a déjà été dit, ça reste l'aliment le plus contrôlé et donc un rare aliment déjà qui est autant contrôlé en France. Donc on y suit beaucoup de choses. Même quand il y a parfois des dépassements par rapport à certaines valeurs, il faut imaginer que toutes les valeurs, par exemple on a parlé des pesticides, la limite réglementaire qui est fixée à 0,1 microgramme par litre également, c'est pas une limite qui a une référence toxicologique, c'est-à-dire que les seuils à effet de ces substances-là sont bien plus élevés. On a juste choisi de mettre comme valeur la plus basse qu'on était capable de mesurer pour avoir un énorme principe de précaution. Et il faut aussi avoir en tête que l'eau du robinet est un des aliments que l'on consomme, mais il y a beaucoup d'autres aliments que l'on consomme qui peuvent nous apporter plein d'autres substances. Vous avez parlé des maquillages pour les PFAS, pour les pesticides, il y a plein de fruits et légumes qui peuvent les apporter également. Donc effectivement, oui, l'eau du robinet est quelque chose de sûr. Par contre, c'est ce que je dis, il faut être exigeant. C'est bien d'être critique par rapport à sa qualité et c'est parce qu'on a ce degré d'exigence que derrière, on entretient aussi toute la chaîne de valeur ajoutée avec les contrôles, la surveillance et l'amélioration de cette qualité autant qu'on peut.
Est-ce qu'on a moyen en tant que consommateur, en tant que Français lambda, de comparer, de savoir quelle est la qualité de son eau du robinet à soi, chez soi par rapport à celle des autres communes alentour ou dans les autres régions?
Alors normalement dans les factures maintenant, ça dépend peut-être les agglomérations, mais si je prends le cas d'ici, côté Poitou, on reçoit une analyse avec les principaux paramètres qui ont été mesurés en même temps que notre facture d'eau, avec éventuellement les dépassements d'ailleurs qui sont indiqués, le nombre de fois où il y a eu des non-conformités, parce qu'un dépassement on appelle ça une non-conformité, ça veut pas dire que l'eau est dangereuse pour la santé.
Mais chacun peut ensuite aller comparer avec les seuils effectivement qui sont prévus. On va retourner au standard où François nous attend. Bonsoir François.
Oui bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, merci de prendre ma question, c'était une première, alors je suis enchanté.
Vous êtes le bienvenu.
Alors je voulais savoir en fait ce que penser d'un système de filtration d'eau qui s'appelle des systèmes à microfiltration. Donc c'est par gravité avec des pores de plus en plus petits qui permet a priori, sur le papier ça a l'air magique, d'éliminer tout ce qui n'est pas bon tout en gardant les sels minéraux. Donc voilà, ça existe depuis assez longtemps, mais ça revient un petit peu à la mode, j'ai l'impression. Et est-ce que ça peut être un complément, entre guillemets, pour améliorer un petit peu la qualité de l'eau du robinet?
Pour que je sois sûr de bien comprendre, est-ce qu'il s'agit des carafes filtrantes qu'on...
Non, pas du tout.
C'est autre chose.
C'est le système, c'est Berkey ou Bakerfield, je crois. En fait, on a un récepteur en inox avec des cartouches des pores de plus en plus petits. Et on remplit d'eau, l'eau va traverser ces cartouches et en fait, du coup, ça va bloquer peu à peu les pesticides, une partie des PFAS, pas tous a priori, les microplastiques. Et les minéraux qui sont plus petits, eux, peuvent passer. Et on a une deuxième partie en dessous, on récupère l'eau filtrée, et qui est l'eau, du coup, qu'on va consommer. Voilà.
Jérôme Lamanowski, que répondre à François sur ces techniques de filtration? Et moi, j'étends là quand même la question aussi à ces carafes qu'on voit chez pas mal de gens qui veulent rendre encore plus pure l'eau du robinet.
Ouais, il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui a beaucoup fait parler d'elle et qui a testé donc différents systèmes avec effectivement les carafes filtrantes, les simples bâtons de charbon actif comme un crayon à papier que vous mettez dans un robinet, effectivement des systèmes qu'on appelle de filtration sur robinet. Alors certains systèmes sont efficaces, d'autres le sont pas. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement on va dire que rajouter un traitement supplémentaire à l'eau, ça peut effectivement continuer à améliorer et éliminer d'autres substances. Alors pour répondre à l'auditeur, ça va dépendre effectivement. Effectivement, vous avez parlé de la taille du pore, la taille de l'orifice qui permet de retenir. Bien évidemment, plus il va être petit, plus vous allez retenir de choses. Plus vous allez retenir de choses qui, effectivement, peut-être sont pas forcément bonnes pour la santé, mais aussi des minéraux. Oui. Donc voilà, c'est un compromis, effectivement. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire attention aux matériaux qui sont utilisés. Parce que faut pas que ça soit ce matériau qui, finalement, repollue votre eau par derrière, bien évidemment. Donc,
c'est-à-dire qu'il y a un côté artisanal. Quand on fait ça chez soi, il faut être sûr de ce qu'on utilise, que ce soit en bon état,
suivre les préconisations.
L'entretenir.
Ouais, suivre les préconisations, c'est très important. Par exemple, si on reprend souvent les carafes filtrantes, on conseille de, par exemple, ça peut être toutes les semaines, toutes les deux semaines de changer le filtre. Il faut le respecter parce que sinon, il peut y avoir des développements bactériens, le filtre peut être moins efficace et au lieu de retenir, se mettre à relarguer les choses. Donc, il y a des préconisations d'usage qui sont importantes à suivre. Et voilà. Donc, il y a des systèmes qui, effectivement, permettent d'éliminer un peu mieux certains pesticides, certains PFAS, comme ça a été dit. Voilà. Par contre, il faut bien écouter et respecter les règles d'usage. Sinon, ça peut se retourner contre soi.
On a plusieurs questions, d'une part sur WhatsApp de Guillaume qui s'interroge sur des pollutions au plomb observées dans certaines villes sur des installations neuves. Il parle notamment des crèches ou des écoles. Et puis on a Soizic qui est au standard. Bonsoir Soizic.
Oui, bonsoir.
Vous aussi, vous avez une question au niveau des crèches?
Oui, j'ai une question au niveau des crèches. En fait, il y a certaines crèches pour répondre à des labels écologiques notamment. Et puis après aussi au niveau des formations HACCP qui suivent, en fait, est préconisé par l'ARS de prendre l'eau du robinet. Et moi, ça me pose question puisqu'en Centre-Bretagne, il y a déjà eu des problématiques au niveau des métabolites avec des dépassements de seuil qui sont vus après coup puisque les analyses sont faites avant. Et du coup, ça me pose question sur le fait que ces crèches qui répondent à des labels n'utilisent pas de filtres notamment, et puisqu'il y a déjà des problématiques en Centre-Bretagne sur justement les métabolites liés aux pesticides qui sont utilisés pour le maïs.
Merci beaucoup, Soizic, pour votre question. Et on en revient, Nathalie Davoine, à ce dilemme qu'on a depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'on sait que l'eau du robinet est globalement bonne, qu'elle est, vous le disiez, l'aliment le plus vérifié, contrôlé de tous. Et à la fois, on voit bien que la confiance n'est pas toujours là, et notamment au gré des informations qu'on a, au gré des affaires ici, de nitrates, là, de pesticides, là encore, de PFAS. Comment répondre à ces questions et précisément à celle de Soizic?
Bien, en fait, lorsqu'on a une question particulière, notamment sur la qualité de son eau, la première chose à faire, c'est de s'adresser d'abord à sa mairie, hein, puisque l'affichage hein, de la qualité est une obligation. On peut trouver également ces informations sur le site de la Direction générale de la santé, sur Eau France, et nous, en tant que centre d'information sur l'eau, nous mettons également à disposition un outil qui est totalement gratuit et on ne collecte aucune donnée, qui permet en fait d'avoir accès à l'information de son eau du robinet en tapant simplement un code postal ou le nom de sa commune.
Alors dites-nous comment on trouve cet outil, parce que ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure de comment comparer son eau à soi à celle des autres régions.
Exactement, oui. Alors l'outil, en fait, vous le retrouvez sur le site du Centre d'information sur l'eau, www.ciEAU.com, et vous accédez directement en page d'accueil sur ce module où on peut taper, en tapant simplement, je le disais tout à l'heure, un code postal ou même le nom de sa commune.
Et ça, c'est des informations qui sont mises à jour, qui sont en réel?
Absolument, ce sont des informations qui sont mises à jour en fonction de des dernières mises à jour hein, des agences régionales de santé, donc de la direction de la direction générale de la santé. Mmh. Et en fait, ce que je voulais ajouter tout à l'heure par rapport lorsqu'il y a un doute, à partir du moment où les analyses de ces agences régionales de santé, de ces ARS, si elle considère qu'il y a un risque sanitaire, eh bien, il faut savoir que le préfet peut être amené à prendre des arrêtés de restriction d'usage, tout ou partie, et pour justement protéger ces populations fragiles, et que l'information, en tout cas, fait partie d'une obligation, notamment dans la directive qui encadre
Jérôme Labanowski.
De l'eau.
Merci Nathalie Davoine. Est-ce que Jérôme Labanowski, il y a une sorte de démonstration suffisante de la part des autorités, des préfets, des ARS, qu'ils font ce qu'il faut pour rassurer la population en termes d'information, en termes de contrôle?
Non, c'est une vraie question et on voit souvent à travers toute la défiance, on va dire, des consommateurs. Je pense qu'il y a surtout on a peur, j'allais dire, de la théorie du complot, d'un manque de transparence, alors qu'au contraire, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on parle et qu'on met en évidence une pollution, c'est que justement il y a la transparence, puisque ben on met le doigt dessus et que malgré tout, pour pouvoir trouver une pollution, il faut que ça soit pollué. Mmh. Donc c'est un peu, j'allais dire, on se marre un petit peu la queue pour pas dire autre chose. Mais ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a toute une éducation en termes de sémantique Et c'est ce qui est compliqué, en fait, cette éducation sémantique, c'est de comprendre que quand on est au-delà de la valeur limite pour les pesticides, il n'y a pas forcément un risque pour la santé, ce qu'on appelle une non-conformité. L'eau, elle n'est pas conforme, elle n'est pas forcément dangereuse. Et comme ça a été dit juste avant, si je reprends les chiffres que j'avais en tête de 2022, il y avait 85% des eaux qui étaient en conformité, 15% qui étaient non-conformes, où on a donc dépassé la valeur de 0,1 pour quelques jours dans l'année ou plusieurs jours dans l'année, et seulement 0,03% de l'eau qui était non-conforme, c'est-à-dire pour laquelle on a arrêté l'eau. Et ça concernait 18 000 personnes.
Merci beaucoup pour votre expertise, Jérôme Labanowski. Merci aux équipes d'Ici Poitou qui vous accueillaient dans leur studio. Et merci à vous, Nathalie Davoine. C'était le Téléphone Sonne.